la ville.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario geográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, el tigre, el tigre. Suele quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et vous venez d'entendre un morceau de Paulure, Paul Vert, je sais pas trop. Borges, Sillo, Guadalajara, Mexique, machin, tout ça. Alors, Jean-Mathias est mort de rire. Donc, alors, ce soir, Jean-Mathias va nous présenter, donc, avec, comment dire, avec énergie et décision, un livre formidable, parfaitement intéressant et sans doute très très récent, qui est blanc, rouge, avec des couleurs et tout. Et donc, de Vincent Bontemps, ce que je ne passe pas actuellement, pour tout vous dire. Et donc, ça s'intitule « Fiction scientifique ». Et si Borges avait connu l'IA, alors moi j'ai envie de répondre, mais il ne l'a pas connu de toute façon, parce que je suis de mauvaise humeur. Et « Multiversalisme », encore un concept à la con. Et donc, ça a été édité aux Belles Lettres. Voilà, donc Jean-Mathias, moi je n'ai pas lu ce foutu bouquin, dis-nous tout.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Jeudi Noir.
Ouais, je l'aurais déjà dit.
Bon, ça va bien se passer, je pense, hein, Michel.
Non.
Alors, ce soir, oui.
On va tous mourir.
Présentation d'un livre de Vincent Bontemps, les fictions scientifiques. Alors, peut-être deux mots sur l'auteur et puis sur le projet du livre, parce que c'est un livre, de fiction, de science-fiction, pourrait-on dire, mais un peu particulier, parce qu'il est rédigé par un auteur qui, lui, est philosophe, et qui est un philosophe, lui aussi, un peu atypique, je dirais, parce que, en fait, il est directeur de recherche au CEA, au Centre de recherche sur l'énergie atomique, professeur à Saclay. En fait, c'est un spécialiste de la philosophie de la technique, qui fait aussi tout un tas d'autres choses, en fait, philosophie de l'innovation, etc. Bon, donc c'est pas un universitaire standard, je dirais, de la philosophie. Et ce livre-là n'est pas standard non plus parce que, en fait, c'est la réécriture, on peut dire, ou la réécriture d'un livre très fameux de Borges, qui s'appelle Fiction, qui lui date de 1944. Et c'est un livre, un recueil de nouvelles très connu de Borges, dans lequel, en fait, il imagine en 1944 un certain nombre de situations, alors très spéculatives, qui improbable, on va dire, et que Vincent Bontemps va réinterpréter à sa manière, dans la mesure où les situations que Borges a imaginées en 1944, ou un certain nombre de ces situations, il y a 8 nouvelles là, réécrites hein, dans les fictions scientifiques de Bontemps. Bontemps constate en fait que les situations qui étaient purement spéculatives et purement fictives à l'époque de Borges sont en fait devenues, pour certaines d'entre elles, techniquement possible et pensable avec le développement de l'intelligence artificielle. Alors il y a un côté un peu de jeu littéraire évidemment dans son projet. Il reprend pas toutes les nouvelles du recueil de Borges, il en reprend quelques-unes, mais il y a d'abord cette dimension de jeu littéraire. En même temps, c'est un jeu qui est pas gratuit et qui a un fond de sérieux, je dirais, parce que Bontemps s'inscrit dans un courant littéraire, pourrait-on dire, qui s'appelle le multiversalisme. Alors évidemment, ça jargonne un petit peu. Il y a un manifeste multiversaliste.
Ah oui, celui auquel tu nous dis que tu n'avais rien compris.
Oui, celui-là, ouais. Celui-là même. Et donc, ce manifeste, en fait, on pourrait le dire plus simplement peut-être qu'il ne le formule. Mais l'idée, c'est quand même d'utiliser en fait les ressources de la fiction, du roman, en essayant de projeter, si vous voulez, dans le roman, dans l'imagination romanesque, des possibilités qui sont déjà là dans notre présent, notamment du fait des développements scientifiques et technologiques contemporains. Alors là, on est en plein dedans, si vous voulez. L'intelligence artificielle elle se développe à très grande vitesse. Le nombre de requêtes sur ChatGPT a littéralement explosé. On annonce la destruction d'entre 15 et 20% des emplois, du marché de l'emploi, pris dans son ensemble d'ici la prochaine décennie, ou en tout cas c'est les projections qui sont faites. C'est-à-dire que c'est une innovation technologique colossale. Et en fait, l'idée de Bontemps, c'est d'essayer en fait d'imaginer d'une certaine manière des situations qui sont devenues plausibles, qui à l'époque de Borges, donc il y a près de 80 ans ou 60 ans plutôt, étaient complètement relevées de son imagination et qui aujourd'hui sont devenues plausibles. Donc le projet du multiversaliste, c'est ça. Alors bon, il y a un certain nombre d'auteurs qui s'inscrivent dans la science-fiction, mais c'est une science-fiction à la fois un peu de prospection, je dirais, de prospection intellectuelle. Et alors, dans le cas de Bontemps, autre présupposé, c'est qu'en fait, du coup, on a affaire à un texte qui est très hybridé, parce que c'est à la fois des nouvelles qui ressemblent à de la science-fiction, et en même temps, il y a une dimension d'essai philosophique aussi, dans son écriture. Il y a pas mal de références à des philosophes, à des polémiques et à des controverses philosophiques des dernières décennies, à des auteurs aussi plus anciens, je pense à Renouvier notamment et au texte de l'Uchronie, qui est un texte lui du 19e siècle, qu'il reprend effectivement dans une des nouvelles. Donc c'est un texte qui est assez chargé, assez dense, qui n'est pas toujours de lecture facile.
Je le dis quand même, parce qu'il y a ces multiples niveaux là. Alors les nouvelles de Borges à l'origine sont connues aussi pour leur aspect justement un peu labyrinthique, hein, la façon dont Borges imagine et construit les situations des fictions. Alors là, ça reste labyrinthique, mais il faut y rajouter un certain nombre d'extrapolations, je dirais, de ce que l'IA permet déjà et peut permettre dans les années à venir, des références philosophiques, alors qu'ils sont pas très poussées, mais en fait ça donne un cocktail qui est pas toujours facile à comprendre dans le détail. En revanche, je trouve le bouquin hyper stimulant parce que il prend au sérieux le développement fulgurant de l'intelligence artificielle et il essaie de d'imaginer avec rigueur ce que ça pourrait donner sur un certain nombre de questions et ça donne effectivement un peu le vertige quand même. Alors il y a 8 nouvelles donc hein, dans le texte là, dans les fictions scientifiques de Bontemps. Qui en fait alors aborde chacune ou un thème ou une question en fait spécifique. La première par exemple en fait pose la question de la possibilité voilà qui s'ouvre désormais d'avoir en fait des connaissances ou des données présentées comme des connaissances qui sont entièrement artificielles au sens alors bon la situation qu'il imagine hein, par exemple c'est celle de on se projette dans un futur relativement proche par une consultation du système SOFIA. Alors SOFIA c'est le système ouvert de pensée holistique par intelligence artificielle qui est une sorte de super chat GPT, une espèce d'intelligence artificielle générale qui a digéré tous les textes de toutes les encyclopédies et qui est en fait le portail vers la somme de la connaissance humaine hein, d'une certaine manière. Donc par une consultation de SOFIA on découvre en fait l'histoire d'un pays disparu sous l'Antiquité avec un certain nombre de caractéristiques géographiques, une capitale qui est elle-même entourée par deux fleuves. Et puis, par recoupement, en précisant les prompts, eh bien, on va consulter de manière plus spécifique des sources encyclopédiques reconnues, l'encyclopédie Stanford, l'encyclopédie britannique, l'encyclopédie générale, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions, en tout cas, il y a des choses qui ne collent pas. C'est-à-dire que la somme encyclopédique présentée par SOFIA, qui est censée donc l'état des connaissances globales, hein, universelles, en fait, ne colle pas avec un certain nombre de données. Notamment, il y a des contradictions, des incohérences géographiques autour de la capitale Ukbar de ce pays disparu. Et donc s'ensuit en fait toute une réflexion sur ce qui serait justement un état des connaissances dans lequel en réalité le dernier cri et la synthèse des connaissances disponibles serait en partie hallucinatoire comme on dit déjà aujourd'hui. Mais sans qu'il y ait réellement la possibilité de contrôler l'hallucination ou de voir sur quoi a lieu l'hallucination. Dans la mesure où l'accès aux autres encyclopédies qui nourrit en fait SOFIA, cette intelligence artificielle générale, cet accès est lui-même médié par SOFIA. C'est-à-dire que c'est par le SOFIA qu'on accède à ces sources. Les sources ne correspondent pas avec, ou pas entièrement, ou pas complètement, avec le résultat. Et en fait la situation se complexifie encore parce que en fait ce dont on prenne conscience les personnages, c'est qu'en fait en cherchant les sources qui amènent au résultat final, en fait ils découvrent que on a affaire à des récits qui sont portés en fait par des mythes essentiellement, des partisans d'une croyance qui une croyance un petit peu étrange pour laquelle En fait, il n'existe, c'est un langage dans lequel il n'existe pas de substantif. Où tu n'as que des adjectifs et où tous les substantifs sont en fait recomposés par des combinaisons d'adjectifs. Donc, il y a un exemple sur la lune, par exemple. La lune, voilà. Opalescente au matin, croissant et lumineuse et croissantée la nuit, par exemple. Voilà, ça, c'est, tu n'as plus le mot lune, mais tu as en fait des combinaisons de. Et en fait, c'est une mythologie portée par des adeptes qui, en fait, considèrent qu'il n'y a pas de réalité extérieure, qu'il n'y a pas d'objet, qu'il n'y a pas de substance, qu'il n'y a pas donc de substantif non plus, assez logiquement. Et en fait, fort de cette conception du monde, s'est développée toute une mythologie qui donc a produit des textes qui eux-mêmes ont été digérés puis réécrits par Sophia et qui font émerger l'existence de ce pays et de cette capitale Ukbar qui n'est pas confirmée par les autres encyclopédies, mais qui, du point de vue quantitatif, la quantité de données écrase en quelque sorte les autres sources et rend d'une certaine manière aux yeux de Sophia crédible et vrai un fait qui en fait ne semble pas corroboré ailleurs avec derrière des pratiques qui rendent invérifiable en fait la chose puisque les partisans de Mjenna et de cette conception du monde organisent en fait des visites sur ce lieu dans lequel ils reconnaissent ce que raconte leur mythe même si les données géographiques ne le confirment pas. Mais c'est pas une difficulté pour eux et pour les témoignages abondants qui nourrissent en fait Sophia, puisque en fait ils ne considèrent pas qu'il y ait des réalités extérieures susceptibles de falsifier en fait leur croyance et étage plus conceptuel, les deux personnages discutent et se rendent compte qu'en réalité, cette conception Mjelnas qui a fait émerger l'existence de ce pays et de cette capitale introuvable, ont en réalité prolongé et systématisé des intuitions qui étaient celles d'un auteur de la fin du XXe siècle et du XXIe qui s'appelait Bruno Latour et qui considérait lui aussi d'une certaine manière qu'il n'y avait pas de réalité extérieure indépendante finalement des descriptions et des croyances qu'on pouvait cultiver à son propos et qui prennent tout simplement ça au sérieux et qui ont atteint une masse critique leur permettant de produire en fait des récits et de produire des croyances qui reprises à une échelle suffisante par l'IA, fait exister du point de vue de l'IA ce lieu leur permet même en fait d'organiser des visites touristiques et des visites pensées et crues comme archéologiques sur un lieu qui en fait ne présente aucune trace matérielle de des croyances en question et des mythes en question. C'est ce type de construction là et alors évidemment, c'est le succès en fait de ce type de représentation qui est parfaitement compatible en fait avec l'idée d'une intelligence artificielle générale qui serait finalement devenue la source unique de nos accès aux connaissances. Ce type de croyance est devenu compatible avec. Elle a de nombreux adeptes qui, en fait, ne sont jamais confrontés à une réalité extérieure susceptible de les faire changer d'avis ou de les mettre en difficulté. A lui aussi, à son tour, donné lieu, en fait, à des réactions. C'est le type de construction intellectuelle qu'on a, des réactions d'un nouveau mouvement qui s'appelle Veritas Orbis et qui, lui, par réaction, en fait, a décidé de passer à l'action direct et qui en fait exécute purement et simplement tous ceux qui cultivent des croyances en décalage avec un certain état de nos connaissances du monde menacé par les partisans Mjenas dont je viens de parler. Et par exemple, ce sont des gens qui exécutent et qui revendiquent l'exécution massive des partisans du platisme. puisque en fait ben, la seule manière de lutter contre cette espèce d'idéalisme délirant en fait qui a pris le comment dire qui grandit, qui croit et qui se développe comme une traînée de poudre avec la généralisation de l'intelligence artificielle générale de Sophia, la seule manière c'est finalement de s'attaquer physiquement aux porteurs de ces croyances là et de défendre un état stable et supposé définitif de nos connaissances de la réalité extérieure. Ce qui fait que la situation dans laquelle on se retrouve les deux personnages, c'est en fait qu'ils sont coincés, d'une part, entre les partisans de cette espèce d'idéalisme total pour lequel il n'existe pas de réalité extérieure susceptible de valider leurs croyances, leurs mythes et la persuasion en fait qui cultive à l'égard de ces croyances. Donc il y a cela d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui cherchent à éliminer et à conserver un certain état. Le résultat, en fait, c'est la prohibition de toute inventivité politique ou scientifique et la destruction de l'idée même de recherche scientifique. Alors, ça, vous voyez, la construction à étage, en fait, qu'on a dans par exemple cette nouvelle-là. En fait, elle est à la fois compliquée en fait à digérer, à ingérer, et en même temps, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est gratuit, et c'est quelque chose qui a sa plausibilité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une fois intégré, digéré l'ensemble des connaissances humaines disponibles par une intelligence artificielle générale qui est capable en fait de produire de générer elle-même des commentaires sur la base de probabilités et des quantités de données qui la nourrissent. Effectivement, l'idée qu'il n'y ait pas de réalité extérieure susceptible de falsifier en fait les résultats de connaissances établies devient effectivement plus plausible aussi, d'une certaine manière. Et derrière l'idée de dynamisme de la recherche scientifique, de confrontation à une réalité extérieure, d'ajustement progressif, de correction collective des conclusions de la recherche scientifique, quel que soit le domaine. Disparaît d'elle-même, d'une certaine manière. Donc, je vous ai parlé de cette première nouvelle qui n'est pas forcément la plus simple. Il y en a d'autres, assez sophistiquées. Mais pour vous donner une idée un petit peu du type de réflexion et du type de situation envisagée et imaginée par l'auteur. Et alors, évidemment, c'est une réécriture d'une des nouvelles des fictions de Borges qui, elle, évidemment, n'intègre pas cette idée d'intelligence artificielle générale, mais qui, elle, pareil, partait de l'idée qu'il puisse y avoir des contradictions et, en fait, une espèce de trou dans la connaissance encyclopédique textuelle disponible. Voilà. Donc là, effectivement, on a la même idée, mais à l'heure d'une intelligence artificielle générale et avec du coup effectivement une mutation aussi dans la manière de se représenter le monde extérieur, de se représenter l'idée même de connaissance, voilà, et de ne plus faire de différence fondamentale entre l'idée de connaissance et l'idée de croyance et de croyance tout simplement. Donc voilà le type de situation envisagée. Alors peut-être faire une première petite pause musicale et puis je présenterai ensuite un certain nombre d'autres nouvelles et d'autres situations imaginées par Bontemps dans ses fictions scientifiques. We'll be right back.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit, donc avec Michel, beaucoup plus calme, Jean-Mathias en face de moi, toujours Hilar, Morane, qui elle aussi se moque, évidemment. Donc c'est Chosy qui a choisi la musique, évidemment aussi. Et donc c'était Poetronica, je ne sais pas encore où il a trouvé ça, Pierre Ménard, auteur d'El Quijote. Donc, en plus, tout ça pour que ce soit fait London, Ontario, Canada. Donc voilà, il y a 2023.
Pierre Ménard.
Ouais, Pierre Ménard. Donc, Pierre Ménard, c'est un personnage qu'on trouve dans les fictions de Borges. Donc, Borges, l'auteur, c'était quoi déjà? C'est
de fiction.
De fiction, oui, non, de quelle nationalité?
Argentin.
Et donc le Pierre Ménard, c'est une nouvelle extrêmement connue de Borges, parce que c'est une nouvelle qui met en scène un personnage, un personnage d'écrivain qui s'appellerait Pierre Ménard, et qui, je suis jamais sûr d'avoir vraiment bien compris cette nouvelle, parce que il réécrirait le Don Quichotte à la virgule près, mais est-ce que c'est en le recopiant?
Non.
Ou est-ce que c'est en quelque sorte, c'est ça, c'est il réécrit le Quichotte, mais au XXe siècle.
Oui.
Et donc, en quelque sorte, quel objet littéraire ça produirait quelqu'un qui, comme ça, reproduirait à l'identique un des monuments de la littérature mondiale? Parce que, évidemment, le contexte dans lequel ce monument de la littérature mondiale réécrit à la virgule près étant complètement modifié, on ne pourrait plus lire le Quichotte exactement de la même façon. Et donc, on aurait affaire à un objet qui serait totalement différent. Ce serait d'une certaine manière, ce serait à la fois complètement la même œuvre et plus du tout la même œuvre. Et donc, c'est un des paradoxes dont Borges était friand, je pense, et autour desquels souvent tournent les fictions. Et donc, alors lui, qu'est-ce que Bain de Bon Temps?
Alors, évidemment, celle-là, il la reprend.
Ah bah, évidemment.
En fait, si on résume les, mm-hmm. les trois grands... C'est un peu à l'âge ce que je dis là, mais en mm-hmm. fait, les trois grands domaines dans lesquels l'IA modifie, de manière plausible, modifier, mais absolument radicalement nos conceptions courantes, c'est les sciences, j'en ai parlé un petit peu, la littérature... Et l'imaginaire et les rêves. Je dirais, voilà, c'est les trois domaines qui intéressent mon temps. Alors j'ai parlé de ce que l'IA peut faire à l'idée même de connaissances scientifiques objectives dans la première nouvelle. J'y reviendrai plus tard parce qu'il y en a d'autres qui tournent autour de cette question-là. La littérature, alors je viens de rappeler en fait la trame en fait de cette nouvelle des fictions de Borges. Alors là, qui est reprise dans les fictions scientifiques de Bontemps. Alors cette fois, c'est plus Pierre Ménard, c'est Pierre Bayard. Et le titre de la nouvelle, c'est la deuxième du recueil, c'est Pierre Bayard, auteur de Pierre Bayard, auteur de.
Ah oui, parce que Pierre Bayard, c'est un critique littéraire. Qui a sa petite célébrité, j'imagine. Il publie chez Minuit et il n'arrête pas de publier des bouquins qui sont très très souvent assez originaux. Un de ceux que j'ai dû déjà citer dans cette émission, c'est Comment parler des livres que l'on n'a pas lu. Mmh. Et évidemment, ce livre est parfait pour en parler quand on ne l'a pas lu, ce qui est mon cas. donc lui aussi n'arrête pas d'écrire des bouquins comme ça, plutôt brillants, qui sont centrés autour de paradoxes. Là, récemment, je crois qu'il a publié un truc sur Agatha Christie pour dire que dans le meurtre de Roger Ackroyd, le meurtrier n'était pas le narrateur qui s'accuse lui-même à la fin du livre. Sachant, si je me trompe pas, de roman d'Agatha Christie, que la ruse du roman d'Agatha Christie, c'était que c'était le narrateur qui avait commis le crime et que donc, évidemment, c'était le moins soupçonnable par le lecteur. Et donc Bayard, il s'amuse à reprendre un tas de trucs comme ça. Et donc là, évidemment, en reprenant Bayard...
Bon, voilà. Alors, le Pierre Bayard de Vincent Bontemps. Ouais. Alors, bon, c'est un romancier qui vient de mourir dans la nouvelle. Il vient de mourir et donc il y a son enterrement. Et c'est un ami à lui, en fait, qui est narrateur et qui raconte effectivement l'enterrement de Pierre Bayard. Pierre Bayard qui était effectivement de son vivant un auteur tout à fait facétieux, puisqu'il n'a cessé d'écrire sous des pseudonymes avec des jeux de poupées russes, voilà, des types Pessoa, Émile Ajar, Romain Gary, etc. Et avec une critique littéraire qui était son ennemi patenté, hein, voilà, Madame Bachelier, me dit Madame Bachelier, qui en fait n'a cessé de dénoncer le caractère immoral de ce jeu de masque sous lequel Pierre Bayard, de son vivant, a passé sa vie à produire des textes en faisant croire que c'était lui ou pas lui ou un autre. Et puis bon, et donc Pierre Bayard meurt. Voilà, comme figure de la mort de l'auteur, pourrait-on dire, hein, ce qui est un thème et un thème classique, voilà, de la littérature. Bon, en fait, l'événement en fait qui va surprendre un peu tout le monde, c'est qu'à la peu après son enterrement, en fait, paraît un texte posthume de Pierre Bayard, signé Pierre Bayard, dans lequel Pierre Bayard explique que les romans qu'il a publiés de son vivant, Pierre Bayard, sont en fait le fait d'un robot, d'intelligence artificielle. Et ce texte posthume de Pierre Bayard est donc intégralement rédigé par un deadbot, c'est-à-dire un robot, une intelligence artificielle qui reprend dans ses formes le style de Pierre Bayard, et qui donc jette le doute après la mort de Pierre Bayard sur l'auteur physique des livres que Pierre Bayard a publiés de son vivant.
Sachant que le rêve de constituer comme ça une espèce de personnalité post-mortem, c'est un rêve réel. Dans les GAFA, t'as des gens dont c'était un début, avec en arrière-fond la recherche d'une certaine manière de l'immortalité. Est-ce qu'on pourrait sauvegarder une conscience sur une forme de clé USB quelconque, grosse clé USB pour le coup, mais donc là ça s'insère aussi, c'est marrant parce que dans dans une technologie qui en réalité est en cours de recherche.
Pas simplement sur cet aspect-là, en fait, la semaine dernière, en fait, un auteur a expliqué et a publié en fait un produit, un texte qu'il a produit par intelligence artificielle à la suite d'un certain nombre de prompts, qui en fait est le dernier chapitre de Madame Bovary de Flaubert. Donc c'est-à-dire que le dernier chapitre de Madame Bovary a été réécrit intégralement à la virgule près par une IA la semaine dernière. Donc on est en plein dedans, en fait, sur cette affaire-là. Alors, ce qui intéresse Bontemps, cette deuxième nouvelle des fictions scientifiques, évidemment, c'est ce que ça fait, du coup, à l'idée même d'auteur, mais j'ai même à l'idée même d'attribution intellectuelle, en fait, d'une œuvre. Bon, c'est assez évident, évidemment, le problème que ça pose. Alors, il appelle ça les auteurs centaures. Voilà, les auteurs centaures, ce sont, en fait, des auteurs qui sont suffisamment crédibles pour qu'on puisse se demander s'ils ont une existence physique, et qui sont qui sont en réalité des robots. Et alors évidemment, là où ça se corse, c'est quand on va découvrir que Madame Bachelier, la critique féroce de Pierre Bayard de son vivant, elle-même se met à publier des livres après sa mort qui sont le fait d'un deadbot lui-même. Ce qui fait que le débat même sur la question de savoir s'il existe réellement un auteur qui s'est appelé Pierre Bayard, et c'est les polémiques qu'il a pu susciter, ne sont pas elles-mêmes, d'une certaine manière, le fruit d'une intelligence artificielle qui aurait produit la chose. Alors, c'est la naissance, en fait, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça, mais le dernier chapitre de Bovary dont je parlais, c'est ce que Bontemps va appeler de la littérature de synthèse, au sens strict, c'est-à-dire que c'est une littérature qui mime et qui simule en fait toutes les caractéristiques visibles et lisibles d'une littérature humaine, mais qui n'en est pas. Et donc évidemment ça pose des questions aussi assez vertigineuses. Alors bon, pour les amateurs de littérature bien sûr, mais au-delà, c'est-à-dire pour la nature même de la création littéraire et de sa signification, parce que à partir du moment où effectivement il y a plus de différence discernable hein, entre un texte produit, évidemment, à plus forte raison quand c'est une œuvre complète, d'une certaine manière, qui a été attribuée par une escroquerie, par une espèce d'escroquerie à un être vivant et qui, en réalité, on est dans ce type de questionnement-là. L'idée même, voilà, d'attribution intellectuelle à une œuvre donnée, s'évapore. Hein. Alors, c'est... Évidemment, si on rajoute ça, si on réintègre ça à la situation de la nouvelle précédente dont je parlais. Alors bon, là, il s'agissait d'encyclopédie, il s'agissait d'expérimentation scientifique ou de preuves scientifiques. Mais il faut bien qu'elle soit d'une certaine manière attribuée à quelqu'un à un moment donné. Donc si on intègre évidemment cette littérature de synthèse dans la grande Sophia dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce système ouvert de pensée holistique par intelligence artificielle, qui serait une espèce d'intelligence artificielle générale, qui intégrerait finalement l'ensemble des données disponibles et produites par des êtres humains jusqu'à présent, mais aussi toutes les productions évidemment faites par IA sur ces mêmes données. C'est-à-dire les commentaires faits par IA, les synthèses faites par IA qui, à leur tour, deviennent des données sur lesquelles il est possible de faire des synthèses et des commentaires. On n'est pas rendu pour dire les choses. Évidemment, la question, elle se pose aussi bien pour la littérature que pour n'importe quelle forme de création artistique. Ouais. On peut faire le même raisonnement et avoir le même type de questionnement sur la musique, le cinéma, la peinture, enfin, etc., etc., bien sûr. Donc voilà, deuxième type évidemment de voilà. Alors bon, en ce qui concerne les sciences, alors c'est un peu dans le désordre hein, effectivement dans le recueil, dans les fictions scientifiques de bon temps, mais il y a une autre nouvelle très intéressante aussi, alors pareil sur la question de la vérité scientifique et la disparition de l'idée même de vérité objective et même de possibilité d'une vérité objective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'accès aux données est médié par une intelligence artificielle universelle, on en prend quand même le chemin sur le net assez rapidement. L'accès aux données qui permettraient de falsifier un résultat, de vérifier un résultat, de le contrôler un résultat, devient lui-même compliqué. Bon, alors c'est sa troisième nouvelle qui s'appelle Les ruines occidentales et qui imagine une situation dans laquelle l'intelligence artificielle aurait produit une physique complètement contrefactuelle, complètement alternative, une physique taoïque. Qui serait devenu hégémonique. Qui serait devenu hégémonique et qui, intégré à la machine d'intelligence artificielle, s'appliquerait en fait à réviser systématiquement toutes les productions scientifiques antérieures et donc toute la physique telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, qui deviendrait, qui serait systématiquement réinterprétée et de manière à confirmer cette nouvelle physique, centaure, pourrait-on dire aussi, avec des principes complètement alternatifs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est que là où on parle de corpuscule, il ne faudrait plus parler de corpuscule, mais effectivement de Tao, de complémentarité.
Ce serait simplement un changement de terme ou ce serait une espèce de théorie entièrement ad hoc?
Entièrement ad hoc.
Donc, c'est-à-dire, en gros, constituée uniquement pour sauver la théorie et pas forcément pour expliquer réellement les phénomènes. Une théorie ad hoc, c'est on monte une théorie, cette théorie se casse la figure parce qu'il y a un phénomène qui la contredit directement. Et là, le physicien va se dire, oui, non, mais si je rajoute tel principe sorti de nulle part, alors ma théorie est sauve.
Exactement.
Et en réalité, les scientifiques sont souvent plus ou moins obligés de faire ça, et pas toujours à faux. Par exemple, la matière noire, à l'origine, c'est typiquement une théorie ad hoc. En gros, la façon dont Einstein a conçu le monde, il y a un truc qui bloque, il manque de la masse dans l'univers pour que tout tienne ensemble. Et donc, vous avez un astrophysicien qui va dire, il y a peut-être une matière qu'on n'arrive pas à observer, on va appeler la matière noire. Et en fait, les physiciens, ça fait 70 ans, si je dis pas de conneries, qu'ils travaillent sur cette hypothèse. Et on pourrait dire, c'est complètement ad hoc. Et donc, c'est peut-être faux, mais pas forcément. Et donc là, ce serait un truc qui serait juste une théorie bidon, avec des correctifs permanents pour que ça fonctionne.
Alors, non seulement ça, mais qui, en fait, ayant atteint une masse critique suffisante en termes de données, de quantité de données, permettrait aussi de réviser rétrospectivement la physique antérieure.
Ouais. Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, que tu opposerais un résultat de la physique antérieure à cette nouvelle physique, l'IA serait capable de générer, au vu de la quantité de données qui confirme cette nouvelle physique taoïque, serait capable de te produire à chaque fois la raison pour laquelle la physique antérieure est dépassée et intégrée à la nouvelle. Voilà. Donc c'est à la fois une physique contrefactuelle ad hoc, comme tu viens de l'expliquer, mais qui a atteint une telle masse critique en termes de présence dans les données sur lesquelles mouline l'IA, que l'IA mécaniquement te produirait aussi les justifications de cette nouvelle théorie en révisant la physique antérieure. Ouais. C'est pas absurde techniquement.
Ce serait une dépense énergétique absolument colossale.
Ah bah, de toute façon,
pour produire du bullshit.
Pour produire du bullshit, oui. Mm. Pour produire du bullshit.
Remarque, c'est ce qui s'appelle Internet aujourd'hui.
Ben, c'est ce qui s'appelle, en fait, ChatGPT, surtout.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est ce qui s'appelle ChatGPT. C'est-à-dire que tu calcules la probabilité et la récurrence des occurrences de telle donnée, de telle affirmation, de tel enchaînement de mots, et tu en tires, effectivement, le texte que tu as demandé. Alors, peut-être un dernier exemple, parce que c'est au fond celui qui vient un peu couronner, je dirais, en fait, c'est. Il y a un ensemble de ces trois nouvelles autour justement de... Et c'est peut-être la plus convaincante, je dirais, et la plus claire aussi. C'est la sixième qui reprend, là aussi, une fameuse nouvelle des fictions de Borges sur la tour de Babel, qui serait une bibliothèque contenant tous les livres qu'on peut écrire. Donc, toutes les suites de caractères possibles. Donc, c'est une infinité de volumes, évidemment. Une infinité de volumes, et toutes les suites de caractères qui sont possibles. Alors, il y a aussi ça va à l'infini, ça dépasse évidemment toutes les capacités de lecture de toute l'humanité, du début jusqu'à la fin. Mais là, effectivement, ça serait réalisé par le Web of Science, qui serait effectivement cette espèce de mémoire universelle intégrant finalement tous les textes et toutes les théories et tous les discours possibles et concevables. Et alors, avec des concepts assez marrants, du coup, qui sont proposés par Bontemps, alors, je vais peut-être commencer par l'aspect crédible de la chose, parce que ça renvoie à des questions qu'on a déjà évoquées ici dans cette émission, notamment avec Nicolas Chevassuot, lui, quand il expliquait effectivement que face à l'inflation bibliométrique des publications scientifiques, depuis déjà un certain nombre d'années, il n'y avait plus de relecture, en fait, des productions scientifiques, par les sciences de la nature, des sciences dures, donc il n'y a plus de relecture, et que en fait, du coup, sont mises à la disposition du public une masse de exponentielle de textes, de résultats, de conclusions sont considérés comme des résultats scientifiques, mais qui ne sont plus passés par les filtres, en fait, de la vérification par les pairs et du contrôle, en fait, de la communauté scientifique. Alors là, on serait à l'aboutissement, en fait, de ce type de processus là intégré évidemment à une mémoire artificielle qui moulinerait à la ChatGPT dessus, et qui donc donnerait effectivement des résultats à la fois rigolos et en même temps un peu inquiétants. Par exemple, la production régulièrement exactement des mêmes articles présentés comme des découvertes, puisque voilà, les statistiques étant ce qu'elles sont, régulièrement on republierait sous un autre nom ou sous un autre label exactement ce qu'il appelle le bégaiement de la science, effectivement, qui est techniquement aussi une possibilité plausible au vu de la statistique, et surtout l'émergence de ce qu'il appelle une science vaudou. Alors, les sciences vaudou, c'est quoi, en fait? C'est pareil, ce sont des espèces d'air, on va dire, théoriques, de systèmes, pourrait-on dire, mais locaux, qui se confirmeraient entre eux, au vu d'une production mécanique de textes entièrement artificiels, puisqu'il n'y a plus de scientifiques, il n'y a plus de labos, il n'y a plus de processus expérimentaux derrière, mais qui auraient leur cohérence entre eux, et qui, alors, c'est typiquement la science, la physique taoïque dont on parlait sur l'autre nouvelle. C'est un exemple effectivement de science vaudou, c'est-à-dire en fait de systèmes cohérents, mais sans aucun contact avec les autres théories concurrentes, et sans aucun contact évidemment avec une quelconque réalité objective. Ce qui est le stade ultime, c'est justement cette babélisation de la connaissance scientifique dont il nous parle, à savoir, en fait, une multiplicité de langues, pourrait-on dire, hein, et de théories, de langues théoriques, qui sont devenues incommensurables, c'est-à-dire qui ne peuvent plus dialoguer entre elles et qui n'ont plus de paramètres communs sur lesquels décider laquelle serait correcte ou pas. Et tout ça, effectivement, se développe en quelque sorte de manière immanente par le jeu en fait des productions scientifiques et de ces des moulins à articles robotisés en fait qui produisent des synthèses de synthèses. Et qui en fait donne lieu à cette espèce voilà de développement exponentiel de théories incompatibles et incommensurables entre elles. Donc la fin de toute idée en fait de vérité objective.
Une espèce de cancer épistémologique.
Exactement, exactement. Et donc alors c'est le voilà le l'objet de cette science de cette sixième nouvelle là et de cette notion de science vaudou qui sera en quelque sorte immunisée hein, contre la critique. L'IA produisant massivement de quoi justifier des hypothèses et des conclusions pathologiques, en quelque sorte, sans qu'il y ait de risque. Et donc, la conclusion de cette nouvelle, et je vais m'arrêter là-dessus, mais ça serait qu'en fait, les laboratoires, eux-mêmes étant pris, en quelque sorte, dans ces constructions théoriques-là, ne serait-ce plus la garantie, même s'ils font tourner en fait des expérimentateurs, même s'ils payent des chercheurs, pris dans ces espèces de gangs théoriques là, un peu voilà, devenus autonomes en quelque sorte, ne serait plus la garantie en fait qu'il y ait une quelconque recherche effective produite. Et finalement, la seule manière de savoir si on est pris dans une espèce comme ça de bulle, hein, de bulle cognitive, ça serait pour un chercheur de publier délibérément un canular qu'il saurait faux et de constater qu'il est mis à la porte. Puisque la confirmation ne confirmerait plus rien. Ouais. D'une certaine manière, hein. La confirmation ne confirmerait plus rien, et c'est simplement voilà, elle serait simplement probable au vu voilà de la bulle cognitive dans laquelle elle a été conçue et proposée. Et donc la seule manière, ça, c'est de savoir si effectivement la bulle dans laquelle on est prise dans sa cohérence est étayée par une masse de confirmations, une masse de données, une masse d'autres papiers qu'on n'a pas évidemment, qu'on n'est plus en mesure de vérifier de quelque manière que ce soit. Ça serait ça, hein. Ça serait effectivement de... Voilà, dans le meilleur des cas. Voilà. Donc voilà où on en est sur la babélisation de la connaissance scientifique et les menaces plausibles, hein, effectivement, que ce type de technologie fait peser sur l'idée même de connaissance objective ou de vérité objective.
Voilà.
We'll be right back.
soir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence. Et donc, vous entendez la vapote de Jean Mathias, avec Jean Mathias, qui nous présente ce soir un livre de Vincent Bontemps, fiction scientifique, Et si Borges avait connu l'IA, édité aux Belles Lettres. Donc, c'est des recueils de nouvelles de science-fiction inspirées de Borges, comme le titre l'indique, avec cette fois-ci tout un tas de fictions, mais qui sont finalement très très proches du réel, qui sont une transposition, une exagération de choses. Alors ça, c'est souvent la science-fiction qui fait ça, qui existe déjà en vrai. Et donc, là, tu nous parlais de la façon dont l'IA pourrait avoir, par exemple, un impact énorme sur la production de connaissances scientifiques, ou plutôt sur la production de pseudo-connaissances scientifiques, et le fait qu'il se pourrait qu'on arrive à vivre dans un monde où il est finalement impossible de savoir ce qui relève de la croyance, ce qui relève de la connaissance, ce qui relève du réel, ce qui relève du fantasme. Et donc, un monde finalement assez inquiétant, où l'IA jouerait presque... Alors qu'elle nous est présentée comme, en quelque sorte,
le portail d'accès,
à toutes les connaissances objectives. Mmh. Le truc, c'est que si elle tourne à vide et qu'elle se nourrit que d'elle-même, mais ça, c'est déjà plus ou moins établi aussi par les spécialistes des IA, la qualité de la production va baisser mécaniquement, finir par ne plus produire que des choses complètement insensées. Alors, tu voulais conclure sur quoi ? Parce qu'il nous reste peu de temps, étant donné quasiment deux parties présenter.
Après, je pense que c'est aussi pour donner un peu une idée du type de spéculation et d'imagination, de situation à imaginer par Vincent Bontemps dans les fictions scientifiques. J'ai dit, au fond, les trois grands. Il y a plein d'autres choses, mais voilà. Qu'est-ce que fait l'IA à l'idée de connaissance scientifique, à l'idée de été objective, donc c'est plutôt les risques et les prospections du côté des sciences. Mmh. Que fait l'IA à la littérature, et en fait c'est les autres nouvelles tournent. Que fait l'IA à notre imaginaire, à notre imaginaire. Essayer de faire ça plus rapidement, mais il y en a une qui est assez rigolote, c'est la quatrième en fait, qui s'appelle la cryptocratie de Babylone. Alors c'est pas la bibliothèque dont je viens de parler, la bibliothèque ou l'IA générale de toutes les connaissances. Là, il imagine ce que serait alors un jeu vidéo dans lequel, c'est pareil, tout ça est tout à fait plausible et déjà parfaitement existant. Un jeu vidéo dans lequel en fait les joueurs auraient des avatars,
classique,
double numérique, très très classique. Seulement, ce jeu vidéo, en fait, il aurait une particularité, c'est qu'en fait, ce serait un jeu vidéo de résistance à la civilisation qui serait inspiré des textes et du petit manifeste d'Akimbe sur les zones autonomes temporaires.
Ah oui.
Et donc, en fait, les avatars de ce jeu sont programmés pour justement résister à la civilisation. Alors, il rappelle cet homme de choses. Je fais un petit passage assez marrant. Donc, c'est page 94. Il explique. Alors, le nom, c'est Xtas, le nom de jeu vidéo. Et donc, comme son nom le suggère, nous dit le personnage qui raconte ça, Xtas fait référence aux zones autonomes temporaires de l'anarchiste Futrak Akimbe. La philosophie de ce dernier imprègne le jeu jusque dans ses moindres détails. Absence de projet collectif durable, une idolâtrie des pirates, un goût pour l'ésotérisme, les arts martiaux, les sociétés secrètes, etc. Plutôt cool, à première vue. Extase conditionne la joueuse à voir le monde à travers les yeux de baie. Le rêve est une cause perdue qui ne peut être ravivée que durant de brefs instants de licence clandestine parce que la méchante civilisation s'obstine à le condamner. C'est ça l'esprit, effectivement, dans lequel vont se comporter les avatars. Or, pour celles qui ne le sauraient pas, cette vision défaitiste de la vie politique, ainsi que la connexion entre liberté anarchiste et activité prohibée, qu'établit Bay, tiennent à une cause biographique peu reluisante. Bay était pédophile, ouvertement, et fréquentait des réseaux qui organisaient des fêtes sordides. Ce qui est vrai.
C'est réel ?
C'est vrai, c'est bien sûr. La stratégie de furtivité...
Ah merde, si j'avais su, on a présenté un ou deux de ses bouquins.
La stratégie de furtivité qu'il prône découle moins d'une réflexion politique que de la certitude qu'aucune société ne tolérera durablement le viol des enfants. Manifestement, les conceptrices en ont tenu compte, les conceptrices du jeu qu'il imagine, qui s'appelle Extase. Les avatars sont affligés de vices, mais jamais de celui de Bay. Cela dit, je ne suis pas sûr que les poulpes étaient consentantes. Il y a aussi une histoire de poulpes, etc. Bon. Alors, il pose la question, dans la présentation de ce jeu, la cryptocratie de Babylone. Cette inspiration répugnante suffit-elle à gâcher notre plaisir ou à discréditer l'anarchisme des zones autonomes temporaires? Je ne le pense pas. C'est pas parce qu'une mécanique de jeu a été inventée par une personne perverse qu'elle l'est elle-même. J'ai vécu 2 ans avec un philosophe français qui lisait tous les mercredis un journal qui s'appelle Le Canard Enchaîné. Un jour, j'ai appris que le directeur de ce journal des années 70 était un espion à la solde du bloc soviétique, ce qui est tout à fait vrai.
Aussi.
Et je lui ai demandé si ça le dérangeait pas. Et sa réponse m'a frappé. Il m'a dit que Le Canard Enchaîné était le meilleur journal d'investigation français parce que les méthodes de travail de ces journalistes avaient été mises au point par un espion. De manière analogue, Xtase me paraît un bon jeu parce qu'il s'inspire de la philosophie d'un réprouvé. Bon, alors, ça, c'est pour la blague. Alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, le jeu déconne. Alors, c'est un jeu, évidemment, d'intelligence artificielle, hein, dans lesquels les avatars agissent et se comportent tels qu'ils ont été, voilà, selon les algorithmes qui prolongent les principes d'Akimbe. Et évidemment, à un moment donné, ça part en couille. C'est-à-dire qu'en fait, les avatars s'organisent.
Oui.
S'organisent pour niquer qui? Pour niquer le contrôle des joueurs et des joueuses qui sont derrière,
oui, évidemment. Forcément.
Et donc, en fait, elles établissent tout un tas de règles pour justement niquer les joueurs physiques. Donc, règle numéro 1, pour proliférer, soyez discrète. Règle numéro 2, fuyez au premier signal d'alerte. Règle numéro 3, évitez les zones de contrôle. Règle numéro 4, extasiez-vous dans l'ombre. Règle numéro 5, nichez-vous dans les périphériques. Règle numéro 6, l'obsolescence est votre ami, etc., etc. C'est-à-dire qu'elles interprètent le substrat technique dans lequel elles agissent entre guillemets virtuellement de manière à ce que deviennent effectivement alors non pas des tases hein, comme le souhaitait mais des zones d'anarchie virtuelle qui évidemment bousillent et prennent le contrôle des ordinateurs de leurs joueurs et joueuses initiales. Bon, vous avez compris l'idée, bien entendu. Alors, on arrive au bout. J'aurais pas le temps de vous parler de la dernière ou de l'avant-dernière nouvelle, très intéressante aussi sur le rêve là qui imagine un contrôle du Parti communiste chinois sur les rêves à partir de l'idée du chrony de Renouvier. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre qui est pas toujours facile de lecture, je le dis, mais qui pose des tas de questions et d'interrogations assez stimulantes, assez inquiétantes aussi. Voilà, les fictions scientifiques de Vincent Bontemps, réécriture des fictions de Borges à l'heure de l'intelligence artificielle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
On est très heureux de discuter aujourd'hui avec trois membres du groupe Palestine sur scène qu'on a eu le plaisir de voir et écouter en novembre dans les Cévennes. Et on va bien sûr revenir plus en détail sur le projet, votre parcours, mais est-ce que vous pourriez d'abord nous résumer qu'est-ce que c'est Palestine sur scène en quelques phrases?
Excellente question, ça. Je vais y répondre, peut-être, ou quelqu'un a une phrase déjà.
Je pense que tu peux y aller.
Palestine sur scène, c'est une initiative d'une bande d'amis entre musiciens et non-musiciens. Et c'est surtout, d'ailleurs, je le salue et je lui envoie un gros bisou à Landry qui a eu cette idée justement. L'idée, c'était de lutter, en fait, bah, là où on est, parce qu'on n'avait aucun moyen de lutter sur place, ni d'envoyer de l'argent nous-mêmes, ni, enfin voilà, c'était très compliqué de vivre la situation à distance, en sachant qu'il y avait des personnes qui étaient concernées directement par ce qui se passait à Gaza, notamment à Ordaï. Voilà, moi aussi, j'ai de la famille dans le sud du Liban aussi, donc on était un tout petit peu tous concernés. Et voilà, on s'est un peu réunis pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement faire. Et c'était la lutte en musique, la lutte en poésie, pour aussi mettre en lumière la culture orientale et la culture arabe, mais comme l'Occident n'a pas vraiment envie de le présenter, sous un angle d'art, de musique, d'amour, de poésie et d'amour de la littérature, et de lutte à travers justement la littérature et la poésie. Voilà, et puis petit à petit, ce groupe-là est devenu de plus en plus, on va dire, connu dans Lyon au début, puis après on a eu plein de demandes avec justement tous les manifestants et les résistants à travers la France et l'Europe. Et l'idée, c'était de récolter des fonds pour pouvoir les envoyer sur place sous plein de formes différentes, parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est hyper compliqué d'arriver à atteindre la cible directement. Donc il faut passer par des chemins interminables pour pouvoir envoyer parfois, et ça d'ailleurs, Odaï pourra vous en parler.
En gros, on a Nesrine et on a Landry à la récitation, à la lecture, à l'interprétation des poésies en arabe et en français. Et on a Shadi et moi qui on est au oud. Oud avec des compositions, des musiques qui accompagnent la poésie et sinon en solo et avec les amis qui nous rejoignent parfois, les amis musiciens.